La Bulle, une émission créée et réalisée par Tim Brown. Une immersion sonore et poétique à écouter sur Radio Kipik. Je me présente, je m'appelle Sophie Kahl, je suis artiste, j'utilise la photographie et le texte, et si je résume de façon sommaire mon travail, il apparaît que la plupart de mes projets tournent autour de la disparition. En quelques mots, Sophie Kahl formule ainsi l'essentiel de son processus de création. Mais elle s'exprime aussi par la vidéo, le cinéma et la performance, expose sa vie privée et s'introduit dans celle des autres, jouant entre la réalité et la fiction et transcendant ses émotions et ses sentiments. Inspirante, captivante, agaçante, touchante, fragile, sans gêne, Sophie Kahl se met dans la peau d'un détective privé et prend en filature des inconnus dans la rue. Invite tout public dans son lit au sommet de la Tour Eiffel, se fait embaucher comme femme de chambre dans un hôtel vénitien pour fuiner dans la vie des résidents, part se marier à Las Vegas à l'issue d'un road trip avec un cinéaste. Dans ma bulle, s'immisce dans la bulle de Sophie Kahl. peu avant l'inauguration de mon exposition « À toi de faire ma mignonne » au musée Picasso à Paris, un orage a causé des dégâts dans ma réserve et des spores de moisissures se sont infiltrés dans « Les aveugles », une des séries qui devait la constituer. Pour un projet qui avait pour origine l'anniversaire de la mort de Picasso et se concluait en évoquant ma fin, cette décomposition faisait sens. Les restaurateurs se sont prononcés. Afin d'éviter tout risque de contamination, il était préférable de détruire les œuvres. J'ai, dans l'urgence, pris le parti de mettre en scène leur absence. Seulement ces aveugles avaient trop compté dans ma vie pour terminer la leur à la décharge. J'ai alors pensé à une idée de l'artiste roulant au port. J'ai acheté un bout de terrain à Marne-la-Vallée pour enterrer mon vieux pullover avec des motifs en jacquard. Je n'arrivais pas à le jeter, bêtement, dans le sac poubelle. Il était tellement troué, mité de partout, taché de peinture à l'huile, que je n'aurais jamais osé le donner à un être humain, même nécessiteux. Pas question non plus d'en faire un chiffon. J'ai choisi la solution de l'enterrement. Dimanche prochain, j'irai enterrer ma vieille paire de godasses achetée à New York. Il a aussi une théière que j'aimais beaucoup et que je m'obstine à garder malgré le bec et l'anse cassée. Roulant au port. Les crypto-portiques d'Arles se prêtent à une telle cérémonie. L'année précédente, durant les rencontres, l'humidité qui y règne avait insidieusement attaqué les photographies exposées et les champignons l'avaient emporté. Ce lieu censé les protéger avait paradoxalement agi comme un outil de destruction. Que cela se soit produit dans une ville qui joue un rôle majeur dans la préservation des images est pittoresque. J'ai donc imaginé que je pourrais ensevelir ici mes aveugles afin qu'ils finissent de se décomposer et que leurs mots, qui ne parlent que de beauté, s'enfoncent dans les soubassements de la ville. Et puisque j'allais offrir une seconde mort à mes œuvres agonisantes, j'ai aussi invité des choses de ma vie qui ne servent plus à rien, mais que je ne peux ni donner, ni jeter. Ni donner, ni jeter, les clés désormais inutiles des maisons qui m'ont abritée. Ni donner, ni jeter, la robe que je portais en 1979, quand je me déshabillais tous les soirs sur la scène d'une baraque foraine à Pigalle et devenue trop petite pour moi. Ni donner, ni jeter, les accessoires prévus pour accoucher de mon chat. Alors que je clamais mon non-désir d'enfant, on m'avait fait remarquer que mon comportement envers mon chat souris était celui d'une mère. J'avais donc décidé de simuler une grossesse. L'été était-il peu propice au port d'un faux ventre, où ma crainte des moqueries de mes copains du village joua-t-il un rôle déterminant? À force de repousser cette maternité, souris était devenu trop vieux. Cela n'avait plus de sens. Ni donner, ni jeter. La chaussure rouge volée en 1964 dans le grand magasin du printemps. Nous avions 11 ans, Amélie et moi, et tous les jeudis entre 14 et 17 heures, nous chapardions. Un jour, sa mère prétendit qu'elle avait reçu la visite d'un policier qui nous avait repérés. Dorénavant, il nous suivait, et si nous cessions nos larcins, il passerait l'éponge. Nous avons occupé les semaines suivantes à tenter de localiser l'homme attaché à nos pas et à le semer quand nous pensions l'avoir découvert. Nous n'avions plus le temps de voler. Amélie a gardé un pied, moi l'autre. Ni donner, ni jeter. La chemise de nuit fatiguée portée la nuit du 5 au 6 octobre 2002 dans une chambre aménagée pour moi au sommet de la tour Eiffel. Racontez-moi une histoire pour que je ne m'endorme pas. J'avais écouté coucher les centaines d'inconnus qui s'étaient succédés à mon chevet. Quand je suis redescendue au petit matin, un message clignotait sur chaque pilier. Sophie Kahl, fin de nuit blanche, 7 heures, comme la confirmation que je n'avais pas rêvé.
I bleached out a night with an ear. to have the way, so hey. Sing for Moses, I just can't find a staff. Path in the garden, already been down. Laugh on the wall, Humpty Dumpty call. The only difference in the rules and rules, that's all. Will it might rain, and it might not.
You might get choked, and we might not.
It might rain,
and it might not.
It might get choked, and we might not.
Lundi 16 février 1981, je réussis, après une année de démarches et d'attentes, à me faire engager comme femme de chambre pour un remplacement de 3 semaines dans un hôtel vénitien. On me confia 12 chambres du 4e étage. Au cours de mes heures de ménage, j'examinais les effets personnels des voyageurs, les signes de l'installation provisoire de certains clients, leur succession dans une même chambre. J'observais par le détail des vies qui me restaient étrangères. Chambre 30, 4 mars. Mercredi 4 mars, 11h20. J'entre dans la chambre 30. Un seul lit défait, celui de droite. Un petit sac de voyage est posé sur le porte-bagages. Sur une chaise tirée près du lit, s'étale une chemise de nuit en soie, impeccablement repassée. De toute évidence, elle n'a pas été portée. Tous les autres effets sont restés dans le sac de voyage. Je n'y trouve que des vêtements d'homme. Un pantalon gris, une chemise grise rayée, une paire de chaussettes, une trousse de toilette, rasoir, mousse à raser, peigne, lotion après rasage, une photo écornée qui ressemble à un groupe de jeunes gens entourant une femme plus âgée, un passeport établi au nom de Monsieur L, sexe masculin, nationalité italienne, né en 1946 à Rome, où il réside, 1m72, yeux bleus. La salle de bain est vide, l'armoire aussi. Mais dans le tiroir de la table de nuit, je trouve une boîte de cigares Panther, un stylo à encre, du papier avion, une boîte en cuir marquée aux initiales ML, sur un bout de papier, l'adresse de Monsieur et Madame B à Florence, un portefeuille qui contient 5 portraits identiques d'une femme blonde et une photo de mariage sur laquelle on reconnaît l'homme du passeport en smoking et la femme blonde en robe de mariée. Enfin, une ancienne facture de l'hôtel C, datée du 4 mars 1979, au nom de Monsieur et Madame L, pour cette même chambre 30. Il y a 2 ans, jour pour jour, Monsieur L passait la nuit à l'hôtel C en compagnie de sa femme. Il est revenu seul, dans ses bagages, la chemise de nuit brodée. La chambre n'a été réservée que pour la nuit passée. Il s'en va aujourd'hui, je ferai le ménage plus tard. Chambre 26, 28 février, 1er mars. Samedi 28 février, 11h. J'entre au 26. Maintenant, je me dirige immédiatement vers ce qui m'attire. Ici, la paire d'escarpins noirs, rembourrés avec du papier. Les 2 lits jumeaux sont défaits. Des pyjamas en pilou sont posés sur les oreillers. Celui de droite est vert à bord blanc, celui de gauche, rouge à bord bleu. Sur la table de nuit de gauche, une paire de lunettes, un ours en pluche et une trousse à ongles. Dans le tiroir de celle de droite, 3 revues pornographiques. Tenera notte, Caballo et Super. J'ouvre l'armoire, j'y trouve un pullover brodé avec un gilet assorti. Dans les tiroirs, 3 chemisiers, 3 pullovers, 1 pantalon. Aucun vêtement masculin. Dans la salle de bain, 2 trousses de toilette contenant chacune des produits de maquillage. J'ouvre le sac de voyage. J'y trouve une cartouche de cigarettes Marlboro, un grand nombre de culottes bleu clair, une écharpe et une pochette en cuir avec à l'intérieur un passeport au nom d'Anna L, cheveux châtains, 1m53, née en 1956 à Milan, naturalisée suisse, ainsi qu'un document établi au nom de Anna L, fixant la durée de ses repos professionnels. J'apprends qu'elle est conductrice de poids lourds. Je découvre également qu'elle suit des cours de sauvetage et qu'elle possède une Lancia Fulvia. Dans les poches de sa valise, un fouillis de mouchoirs, du papier journal et quelques documents, des billets de la Tombola Moderna, une carte d'identité au nom de Carla P., italienne, vendeuse, habitant Padoue, une photo de mariage. La mariée est Anna L., le marié porte barbe et lunettes, et une série de photographies qui représentent une scène de pêche à laquelle participent trois femmes. Je reconnais Carla et Anna. Dimanche 1er mars, 11h10. Apparemment, pas de changement notoire dans la chambre. Les pyjamas sont à leur place respective. Le rouge à gauche, le vert à droite. En ouvrant le tiroir de la table de nuit, je constate que les revues porno ont été manipulées. C'est maintenant Tenera Notte qui est en haut de la pile. Le ménage est fini. À mon tour, je les feuillette. Lundi 2, 10h. Elles sont parties. Sur la table de nuit de gauche, deux verres. Sur celle de droite, deux bouteilles de Coca-Cola. Elles ont laissé en souvenir de leur passage leur magazine dans la corbeille. Le choléra, le tétanos, la tuberculose, la fièvre jaune, la scarlatine ou le typhus? Étais-je sujette au vertige? Avais-je du cholestérol, du diabète, de la tension, des maux de tête, de cœur, de ventre, des enfants, des allergies, des calculs, des palpitations, des bouffées de chaleur, des problèmes cardiaques, dentaires, auditifs, des crises de tétanie, d'épilepsie, des douleurs lombaires, des étourdissements, des évanouissements, des éblouissements, des embarras gastriques, des désordres intestinaux, des troubles visuels? Et soudain, comme si de rien n'était, perdu dans le flot, cette interrogation, êtes-vous triste ?
Non, je ne suis pas triste du tout. Mais j'utilise beaucoup des moments douloureux de ma vie ou de la vie des gens. En ce qui me concerne, moi, quand je suis heureuse, je n'ai pas envie de faire un pas de côté et de filmer ce qui m'arrive. J'ai envie d'être dans ce qui m'arrive et pas de le regarder. Donc, je ne filme pas les moments joyeux. Si je filme les moments plus triste, c'est parce que là, bon, par contre, le fait d'en faire un projet permet de prendre des distances avec une situation, d'en parler, mais selon un autre angle, d'en faire un projet, ce qui en soi est plutôt gai. C'est vrai que la plupart des choses qui m'intéressent, c'est ce qui n'est pas là, un homme qui s'en va, une mère qui meurt, une douleur, un manque, comme ces gens qui n'ont jamais vu la mer. Voilà, je parle plus de la disparition et les moments que je veux vivre. Bien, je n'ai aucune envie de m'en éloigner pour les regarder de loin.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Radioquipique.org. À bientôt dans une autre bulle.